Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est réveillé, il est à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, dans notre grand dossier du jour, on va tout vous dire sur les ronflements. On fera le point sur pourquoi on ronfle d'une part, certains plus que d'autres, n'est-ce pas Jimmy? C'est une question que vous, que l'on se pose et on va y répondre aujourd'hui.
C'est vrai.
Et puis surtout, on parlera des traitements pour soigner ça et sauver son couple, car oui, c'est une raison fréquente de consultation. Mais au fond, d'ailleurs, est-ce que c'est si grave que ça de ronfler? On verra quand même qu'il y a des cas où les ronflements cachent aussi un syndrome à prendre lui très au sérieux, l'apnée du sommeil. Pour nous éclairer sur tout cela, nous recevrons le docteur Patrick Folcon. Il est ORL à l'Institut Arthur Verne à Paris. Ensuite, dans notre séquence, les bobos du quotidien, nous ferons un point sur les lunettes de soleil. Ce ne sera pas une séquence mode, hein. On va vous préciser à quel point nos yeux sont fragiles face au rayonnement du soleil. Bon, aujourd'hui, vous risquez rien, ne vous inquiétez pas, mais ça peut être utile en temps de météo plus clémente. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera du cancer et de ses blessures physiques qui perturbent parfois la vie de couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Romane. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy et Mélanie. Moi, je vous appelle parce que j'ai des maux de tête, même des migraines, qui sont assez récurrents depuis quelques années. Donc, j'ai fait des examens ophtalmologiques et même au niveau des dents. Mais de ce côté-là, les médecins m'ont dit que tout allait bien. Donc, je me demande ce que ça peut être d'autre, surtout que c'est assez handicapant pour moi. Donc, est-ce que vous pensez que ça serait utile que je prenne rendez-vous chez un neurologue? Merci pour vos réponses. Bonne journée.
Jimmy, alors face à des maux de tête tels qu'elle les décrit, est-ce qu'on peut vraiment se poser la question d'une origine dentaire déjà?
Oui et non. Honnêtement, quand vous avez des maux de tête qui traînent et surtout que vous n'avez pas mal aux dents, la probabilité que ce soit lié à une infection dentaire est assez faible, d'autant plus que les caractéristiques des maux de tête, normalement, lors de douleurs dentaires, c'est qu'à tel point vous avez mal aux dents que ça finit par résonner dans la tête. Or, il est quand même assez rare de passer à côté d'une infection dentaire, même si ça peut être le cas. Et lorsqu'on n'a pas trouvé d'explication particulière, évidemment qu'on propose aux patients d'aller faire un tour chez le dentiste. Mais bien souvent, on ne retrouve rien de particulier. Et même si on retrouve quelque chose, ce n'est pas pour autant que les maux de tête vont disparaître. Donc, la piste dentaire est à éliminer, mais ce n'est pas la principale.
Elle évoque aussi les yeux. Elle dit avoir fait un bilan ophtalmologique. Est-ce qu'un trouble visuel quelconque peut causer des maux de tête? Là, peut-être la fatigue oculaire, c'est ça?
Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Effectivement, si jamais vous êtes myope, astigmate, peu importe, presbyte, et que vous ne vous rendez pas compte que vous avez ce trouble du de la vue, eh bien à force que vous forcez sur vos yeux, eh bien vous allez en fin de journée sans vous rendre compte avoir des maux de tête, mais c'est quelque chose qui va arriver de façon insidieuse. Et encore une fois, la probabilité est assez faible et c'est encore une fois surestimé. On pense souvent que c'est un problème de vue, qu'on a changé de lunettes et qu'à ce moment-là c'est lié à une mauvaise réfraction, mais encore une fois on fait souvent fausse route. Et donc on se rend compte que les maux de tête c'est plus compliqué que ça, notamment pour trouver l'étiologie.
Alors pour Romane justement, ces deux raisons semblent être exclues. Est-ce que ça pourrait pas être tout simplement, on dit maux de tête, des migraines, hein? C'est quoi la caractéristique de la migraine?
La migraine, c'est assez fréquent, c'est 10% de la population. C'est des maux de tête qui ont des caractéristiques très particulières. Ça va durer entre 4 et 72 heures, donc ça dure plusieurs heures. Ça touche la moitié du crâne en général et ça lance comme si le cœur battait dans la tête. Et c'est accompagné d'autres symptômes comme des nausées ou des vomissements, une gêne à la lumière. Et les patients décrivent très bien la caractéristique des migraines, d'autant plus qu'il y a souvent un terrain familial. Et le traitement repose sur des anti-inflammatoires. Donc les migraines, c'est vraiment très particulier. C'est souvent déclenché par quelque chose, un stress, un surmenage. Et dans ces cas-là, le patient reconnaît bien la crise. Et à différencier des céphalées de tension, c'est-à-dire que vous avez des maux de tête qui vont et qui viennent en fin de semaine parce qu'on vous a cassé les pieds. Et avec un peu de paracétamol, ça passe. Donc il faut bien distinguer les deux types de douleurs.
Pour terminer avec ça, elle dit aller voir un neurologue éventuellement.
Non, pas spécialement. Aller voir votre médecin traitant. Il va vérifier d'autres petites choses. Vous avez le droit d'avoir une hypertension artérielle qui vous donne des maux de tête. Vous avez le droit d'avoir une intoxication au monoxyde de carbone, par exemple. Là, c'est pas la période, mais en période d'hiver, lorsque les chaudières sont mal réglées, on peut avoir des maux de tête.
Donc déjà,
allez voir
bilan
votre médecin traitant
avec le généraliste. D'accord. Merci, Jimmy. On va prendre une deuxième question, celle de Brigitte, qui nous a appelé de Béziers. Écoutons-la.
Bonjour, voilà, j'ai 50 ans, je suis diabétique, je me suis brûlée il y a une semaine à peu près la main avec mon four. Ça a du mal à cicatriser et j'ai une cloque et ça devient purulent. Qu'est-ce que je peux faire? Merci beaucoup de votre tour.
Bon, Brigitte n'est pas à Béziers, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça sur ma feuille, mais bon, c'est Brigitte en tout cas. Jimmy, on a souvent parlé ici des pieds des diabétiques et de leur fragilité, mais est-ce que là, elle décrit la main, une brûlure à la main, elle est diabétique, une brûlure qui ne guérit pas. C'est quoi ce problème finalement à les extrémités des diabétiques?
Alors, on sait que les diabétiques sciatiques, lorsqu'ils sont mal équilibrés, vont avoir ce qu'on appelle une neuropathie, c'est-à-dire une atteinte des nerfs, mais de tous les nerfs, pas simplement ceux des membres inférieurs. Vous avez aussi les nerfs du tube digestif qui vont être touchés. Vous allez avoir ce qu'on appelle une gastroparésie, un estomac qui est plus lent, plus fragile et en quelque sorte plus feignant. Et on sait que le diabétique, quelle que soit la localisation de la plaie, va avoir un retard de cicatrisation. Ça veut donc dire que le moindre petit bobo prend des grandes proportions, et en particulier en cas de brûlure, on a tendance à négliger, mais une brûlure est une véritable plaie qu'il ne faut pas négliger, encore plus lorsque vous êtes diabétique.
Et alors là, chez une diabétique chez qui ça ne guérit pas, une brûlure, est-ce qu'il y a des soins particuliers à faire? On va soigner ça comment?
D'une façon générale, on ne laisse pas traîner une brûlure telle quelle. Et puis, elle décrit deux caractéristiques assez inquiétantes. La première, c'est celle qu'il y a une cloque. S'il y a une cloque, ça veut dire que c'est au moins du deuxième degré, peut-être un peu profond. Et dans ces cas-là, la cloque, on n'y touche pas, on la laisse éventuellement, la perce justement pour libérer le liquide, mais surtout on ne la décolle pas. Et puis elle dit que ça devient purulent. C'est-à-dire qu'il y a de la surinfection et qu'évidemment, un, il faut consulter un médecin.
En urgence,
et deux,
plutôt. Hein, ouais.
En urgence. Et puis souvent, on propose des soins quotidiens puisqu'une plaie doit être en permanence étouffée. On doit la faire en quelque sorte macérer, mais avec des pansements spéciaux. On ne la laisse pas à l'air libre, justement pour une meilleure cicatrisation. Donc faites attention et allez consulter votre médecin.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Brigitte qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va tout vous dire sur les ronflements. Vous n'en pouvez plus de dormir à côté de votre conjoint très bruyant la nuit. Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour retrouver un sommeil de qualité. D'ailleurs, est-ce toujours un problème médical de ronfler? Après tout, peut-on être un ronfleur heureux, sans risque pour sa santé? On va voir ça. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, notre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Et donc aujourd'hui, thème cher au cœur de Jimmy Mohamed, nous allons parler de ça. Bon alors, vous l'avez compris, on va parler des ronflements. Ce n'est pas Jimmy Mohamed, je l'avoue, c'est mon mari. Hein. Enfin, tout simplement, je ne vais pas mentir, hein, j'avais besoin d'un son, je me suis servi là où ça existait. J'ai le plaisir d'accueillir en studio pour parler de tout cela le docteur Patrick Faulcon. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes médecin ORL à l'Institut Arthur Verne à Paris. Et donc, on va commencer par une petite question d'abord pour détendre un petit peu tout le monde, déculpabiliser même peut-être certains. On a une idée de la part de gens dans la population qui ronflent tous les jours, hein, je m'entends, parce qu'on peut tous ronfler peut-être de temps en temps. Même si c'est plus ou moins bruyant, plus ou moins gênant, combien il y a de ronfleurs chroniques?
Alors, globalement, il y a pas mal d'études qui ont montré que c'était un motif très fréquent de consultation, puisque près de 20 à 30% de personnes dans une population adulte présentaient des ronflements habituels, c'est-à-dire que ronflaient quasiment tous les jours, et plus de 50% présentaient des ronflements occasionnels au décours d'un petit rhume, après éventuellement un dîner un peu arrosé. Donc c'est quelque chose qui est très très fréquent.
Ça va mieux Jimmy du coup?
Je me sens moins seul tout d'un coup, je me dis c'est cool, voilà, mais c'est normal. Est-ce que ça touche un peu plus les hommes que les femmes? Parce qu'on parle souvent des hommes ronfleurs et très peu des femmes.
Alors vers l'âge de 30-40 ans, effectivement, on compte à peu près 8 hommes pour 2 femmes qui ronflent. Et ensuite revient l'équité vers 50 ans, où là la ménopause fait que les femmes se mettent à ronfler plus fréquemment. Et au-delà de 50 ans, on a à peu près la moitié des hommes et des femmes qui s'équilibrent au niveau des ronflements.
Comment elle agit la ménopause en elle-même? C'est un problème hormonal sur le ronflement?
C'est un problème en fait du taux d'œstrogène qui va baisser au moment de la ménopause. Et c'est une hormone qui joue dans la tonicité des tissus. Donc comme on l'expliquera tout à l'heure, lorsqu'on a une diminution de la tonicité, notamment des muscles, du pharynx et du cou, on va beaucoup plus ronfler.
Est-ce qu'en vieillissant, on devient forcément un ronfleur? Est-ce que c'est un truc inéluctable?
On ne devient pas systématiquement un ronfleur, mais globalement, au-delà de 50 ans, il y a à peu près 50 à 60% des gens qui ronflent.
L'avantage, c'est que vous ronflez déjà. Donc.
De manière habituelle, pas occasionnelle, de manière habituelle. Donc effectivement, l'âge, malheureusement, est un facteur aggravant au niveau des ronflements et aussi des apnées du sommeil. Puisqu'en fait, les années passant, les tissus se relâchent, notamment au niveau, comme je disais tout à l'heure, du cou, du pharynx. Et donc, les ronflements vont augmenter, s'accroître.
Vous dites que plus on vieillit, plus on a tendance à ronfler. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que souvent, quand on prend de l'âge, on prend un peu de poids aussi?
Voilà, le deuxième facteur qui joue un rôle important dans la genèse de ces ronflements, c'est le poids. Hein, plus on prend du poids, plus on va avoir tendance à avoir un épaississement des parois du cou, un épaississement de la langue, un épaississement du voile.
On grossit partout, en fait.
Voilà, partout, c'est pas uniquement au niveau du ventre. Et en fait, cette infiltration un peu graisseuse ORL va créer un rétrécissement de la filière aérienne et va favoriser les ronflements.
Alors, on a dit que l'âge était le principal facteur de risque, finalement, de ronfler, mais on sait que les enfants peuvent aussi ronfler, les tout-petits.
Alors, oui, alors là, effectivement, l'âge n'est pas en jeu, mais c'est surtout là l'obstacle des voies aériennes supérieures qui vont être mises en jeu, notamment par l'augmentation, enfin l'hypertrophie des amygdales et des végétations chez l'enfant.
Ce que j'allais vous demander, pourquoi on ronfle physiologiquement? Il y en a qui ronflent pas du tout, mais il se passe quoi dans notre gorge ou notre nez peut-être?
Tout le monde ronfle un petit peu, ça peut être 15, 20 décibels, mais globalement tout le monde fait d'ailleurs c'est rassurant, parce que donc tout le monde fait un petit bruit, les ronflements sont créés au niveau du voile du palais, par des phénomènes de vibration. Le voile du palais, c'est cette espèce d'organe que l'on a au fond de la gorge et qui va servir, quand on avale, d'éviter que les aliments ou les liquides passent par les fosses nasales. Donc en fait, ce voile va vibrer lorsque l'on inspire de l'air. Et l'air inspiré peut être accéléré par des obstacles. Donc plus l'air est accéléré, plus le voile va vibrer et plus l'intensité des ronflements sera importante.
En fait, vous êtes un musicien, vous avez un bon vibrato, Jimmy, c'est ça?
Voilà, un vibrato, qui gêne peut-être parfois un peu le ou la conjointe.
C'est une musique très particulière. On reviendra après sur l'apnée du sommeil, mais est-ce que c'est si grave que ça de ronfler? Est-ce que c'est signe d'un mauvais sommeil? Et à part embêter le conjoint, finalement, est-ce que ça pose problème?
Alors, on reviendra tout à l'heure sur les signes d'apnée, etc. Mais globalement, lorsque les ronflements sont isolés, ce n'est pas vraiment une maladie. C'est juste un symptôme, c'est un problème qui peut gêner quand même un peu le ronfleur simple, parce qu'en fait, ça peut déstructurer quand même un peu son sommeil. S'il ronfle très fort, il peut être réveillé un peu par ses propres bruits. Ensuite, ça peut malheureusement créer des distensions au sein du couple, parce que les ronfleurs peuvent aller jusqu'à 80-90 décibels de ronflement.
Ça correspond à quoi, ça?
Ça peut correspondre à une mobylette au démarrage. Donc vous vous dormez
à côté de la mobylette.
Je suis plus proche de la Ferrari ou de la Porsche en termes de bruit, mais ça sert
jusqu'à 90 décibels. Ce qu'on a entendu au début, là, l'extrait anonyme de ronflement, c'était combien de...
C'est toujours difficile à évaluer, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu en dessous. Il doit être à 70-75 décibels, mais c'est déjà pas mal.
C'est une petite mobylette, alors.
Donc ça peut créer des problèmes au sein d'un couple, voire des graves problèmes, puisque certains couples font malheureusement chambre à part, même des couples jeunes. Donc ça peut, c'est pas une maladie, mais ça peut entraîner des modifications, notamment du mode de vie, parce que les ronfleurs peuvent hésiter à voyager, à se retrouver dans un train, dans un avion, aller dormir chez des amis, tout ça, ça peut modifier quand même le mode de vie et entraîner des petits soucis au sein du couple.
Moi, j'ai aucun scrupule à embêter l'autre, mais c'est un autre problème. Est-ce que certaines maladies peuvent au contraire favoriser du ronflement? Vous avez dit que lorsqu'on est un peu enrhumé, on peut ronfler, mais est-ce qu'il y aurait d'autres situations où on peut aggraver un ronflement?
Toutes les maladies qui peuvent créer un obstacle, notamment, on y reviendra je pense tout à l'heure sur les causes anatomiques de ronflement, mais tout ce qui peut entraîner un obstacle, notamment au niveau du nez, donc on y reviendra au niveau des pathologies nasales.
Non, dites-nous peut-être dans le nez, qu'est-ce qui peut bloquer finalement? Alors, une déviation
Au niveau du nez, c'est tout ce qui entraîne un obstacle. Donc ça peut être très souvent une déviation de cloison, c'est quelque chose de très fréquent, qui peut être soit de naissance ou soit dans les suites d'un traumatisme du nez. Ça peut être simplement une rhinite chronique, c'est-à-dire une inflammation diffuse de la muqueuse des fosses nasales qui va boucher le nez, notamment en position couchée. Donc cette obstruction va se majorer pendant le sommeil. Ça peut être des sudites chroniques comme les polyposes. Tout ce qui va entraîner une accélération de l'air, suivant la loi des fluides, lorsqu'il y a un rétrécissement, l'air ou l'eau accélère. Donc tout ce qui va augmenter la vitesse de l'air inspiré.
Est-ce que si on ronfle, on doit absolument consulter, au moins pour checker qu'il n'y a pas un des problèmes dont vous venez de parler? Parce que, après tout, si on n'a pas de conséquences...
Si ce sont des ronflements occasionnels, peut-être pas. D'accord. Si c'est au décours d'un rhume, Mais par contre, si effectivement on présente des ronflements fréquents, quasiment quotidiens, et si notamment, on en parlera tout à l'heure, on présente des petits symptômes en faveur d'un syndrome d'apnée du sommeil, et même si on a une modification de ses habitudes de vie, des problèmes dans son couple, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Il y a des moyens assez simples pour améliorer les choses.
D'accord. Docteur Folcon, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous aujourd'hui, on dit stop au ronflement et on va passer au traitement, à la prise en charge. Quand ça devient gênant, même quand c'est le couple qui devient malade à cause de ça, oui, ça arrive, on vient de le voir, c'est parfois même la raison qui pousse les ronfleurs à consulter, eh bien, il y a des solutions. On va vous les détailler, bien sûr, dans un instant. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission 100% pour Jimmy aujourd'hui. On parle des ronflements avec nous en studio. C'est vous, docteur Patrick Folcon, vous êtes médecin ORL à l'Institut Arthur Verne à Paris. Et donc, on parle des problèmes de ronflement quand il faut consulter. On l'a dit, ce n'est pas vraiment une maladie, quoique ça dépend encore des situations. Qu'est-ce qui doit nous pousser à consulter? Est-ce que simplement, vous disiez tout à l'heure que c'est une raison fréquente de disputes dans le couple, de couples qui font chambre à part, qui changent d'habitude complètement à cause de ça, ça c'est une raison suffisante pour venir vous voir?
Oui, il y a beaucoup d'hommes notamment qui viennent me voir en consultation pour des problèmes de couple liés à ce ronflement important. Donc, il y a des solutions simples après un examen ORL complet et on peut demander des examens complémentaires pour savoir exactement ce qui se passe, notamment au niveau du nez, en demandant un scanner des sinus. Donc, quand un patient arrive, il va bénéficier déjà d'un interrogatoire pour savoir un petit peu quelle est son hygiène de vie, parce que le tabac, malheureusement, peut jouer un rôle, ainsi que l'alcool, dans la genèse des ronflements.
En quoi ça fait ronfler, le tabac ou l'alcool?
Alors, le tabac, ça crée une inflammation. Quand vous fumez, vous avez souvent, même quand vous rentrez dans une pièce en étant non-fumeur, vous avez votre nez qui se bouche.
Eh oui.
Donc, ça prouve bien que la fumée de tabac crée une inflammation de la muqueuse ORL et donc va favoriser cet obstacle sur les voies aériennes. Le mécanisme de l'alcool, c'est différent, ça va créer une hypotonicité des muscles, notamment des muscles du cou, du voile du palais, et ça va aussi créer un rétrécissement de la filière aérienne et favoriser ces ronflements. Donc si pour quelqu'un qui ronfle, une solution peut être d'améliorer son hygiène de vie, c'est-à-dire
de fumer, de moins boire d'alcool, d'arrêter.
Moins boire notamment au niveau pendant le dîner, hein. Sans faire comme un patient me disait, il commencerait plus tôt le matin.
Non, c'est pas ça la bonne idée.
Voilà,
la bonne idée,
c'est de limiter quand même globalement et surtout pour le dîner. Diminuer le tabagisme et le poids aussi, essayer de faire un petit peu d'exercice. Et même 2-3 kilos peuvent largement améliorer les ronflements.
Et à quel point ça peut nuire dans la qualité du couple, dans la relation? Est-ce que certains sont sur le point de divorcer? Est-ce que des gens dorment en chambre à part? Parce que finalement, c'est perturbant de se dire on va consulter pour des ronflements alors que soi-même, on ne se sent pas malade.
Oui.
On reparlera de l'apnée du sommeil après, mais
oui.
Ils viennent poussés par leur conjoint parce que ça ne va pas.
Souvent, effectivement, ils viennent poussés par le ou la conjointe parce que ça crée des distensions. Ça peut même, comme je disais tout à l'heure, pousser des couples à faire chambre à part. Et donc le ronfleur va avoir un sommeil fragmenté parce qu'il ne va pas être à l'aise en sachant qu'il ronfle. Mmh. Ça ou son conjoint va très mal dormir, ça peut retirer 1 à 2 heures de sommeil
au
conjoint qui va se réveiller sans arrêt, etc. Donc l'ensemble fait que ça, pour les deux, ça crée une irritabilité. Et donc, ça favorise les disputes pendant la journée aussi, vous voyez. Donc, souvent, effectivement, c'est le conjoint ou la conjointe qui envoie le ronfleur en consultation.
Alors, le ronfleur, justement, ou la ronfleuse arrive dans votre consultation. Qu'est-ce que vous regardez en premier? D'abord, j'imagine qu'il y a une auscultation anatomique,
alors,
hein, c'est ça?
Habituellement, je l'interroge pour connaître un peu ses habitudes de vie, s'il fume, quelle est sa consommation d'alcool, son activité physique, son poids, etc. Et ensuite, on va faire un examen complet ORL pour justement apprécier les différents éléments anatomiques, c'est-à-dire la taille du voile du palais, la taille des amygdales, la taille de l'aluette aussi. Vous savez, cette petite appendice qui est appendu au voile, qui peut prendre des proportions très importantes.
Vous,
parce
c'était
que...
ça, Jimmy, hein, le problème, c'était l'aluette.
Voilà. J'ai une grosse luette, exactement.
Bon, et donc, c'est un peu un cercle vicieux, parce que plus on va ronfler, plus un œdème va se créer au niveau de l'aluette.
C'est
plus...
tout le temps irrité, tout le temps enflammé,
voilà.
C'est
et
ça
en
ouais.
fait, du coup, c'est un cercle un peu infernal du ronflement. Et au niveau ORL, on va surtout vérifier la perméabilité nasale, comme je vous disais tout à l'heure, avec un examen, un petit fibroscope passé dans le nez qui permet de voir s'il n'y a pas de déviation de cloison, s'il n'y a pas de polype, s'il n'y a pas d'inflammation qui va donc favoriser cette accélération de l'air à l'inspiration.
Et du coup, si on a de grosses amygdales ou de grosses végétations, on peut aussi ronfler et du coup, à l'inverse, devoir s'en débarrasser pour moins ronfler?
Alors,
ou...
chez l'adulte, les végétations, c'est plus rare. Mais effectivement, on peut avoir certains adultes qui présentent des amygdales assez importantes. Bon, maintenant, on a tendance à plus les retirer parce qu'il y a toujours des risques hémorragiques assez importants.
À une époque, enfin, moi, quand j'étais enfant, on retirait toutes les végétations et toutes les amygdales des enfants, notamment.
Maintenant, chez l'adulte, on a plus des moyens pour réduire le volume avec des lasers, avec des appareils de radiofréquence.
D'ailleurs, végétation, tout le monde a entendu ce terme, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Enfin, bon, moi aussi, mais les amygdales, on voit, mais les végétations, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
En fait, les végétations, c'est comme une amygdale qui est située en fait derrière le nez.
C'est un filtre,
région,
hein, c'est ça?
Oui, c'est un peu comme les amygdales. Ça sert de filtre pendant l'enfance et après, c'est plutôt des nids à bactéries.
Donc les enlever, ça ne pose pas de problème en fait?
Après, non. Au contraire, c'est souvent vers les enfants vers 3-4 ans, ils peuvent présenter des rhinopharyngites à répétition, justement liés à ces nids de bactéries qui s'accumulent au niveau des végétations. Mais la nature est bien faite et les végétations involuent avec l'âge. Donc ça existe chez certains adultes, mais on retrouve plus chez l'adulte une hypertrophie des amygdales, un volume important des amygdales.
Donc une fois que vous avez fait tout ce bilan anatomique, on va dire, vous avez vérifié s'il n'y avait pas une grosse langue, des grosses amygdales, etc. Voilà. Je crois que vous prescrivez quand même, dans certains cas, une polygraphie du sommeil. C'est quoi cet examen ?
Alors la polygraphie du sommeil est prescrite lorsque l'on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil chez un patient. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une... Là, par contre, on est vraiment... Mmh. C'est une véritable pathologie.
On
c'est
détaillera ça dans la dernière partie. Oui.
Qui peut entraîner de graves problèmes. Donc, à ce moment-là, s'il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent faire évoquer un syndrome d'apnée du sommeil, et dans ce cas, on sera amené à faire un petit enregistrement, ce qu'on appelle une polygraphie de dépistage du sommeil.
Chez soi, à la maison ?
Oui, on vous prête un petit appareil que vous mettez sur l'avant-bras droit, avec 2-3 capteurs sur le thorax et un petit capteur dans le nez. Et ça va permettre de quantifier la diminution ou les pauses respiratoires. C'est normal de faire des petites pauses ou de faire ce qu'on appelle des hypoventilations pendant le sommeil, mais faut pas, c'est comme tout, il ne faut pas en faire trop. Ouais. Et là, si vous dépassez un certain index, ça peut être grave.
Alors, on a vu que plusieurs obstacles dans la sphère ORL peuvent donner de l'apnée du sommeil. Est-ce qu'avoir une grosse langue, c'est aussi un facteur de risque d'apnée du sommeil ?
Oui, parce que en fait, lorsque vous êtes notamment, la position est importante dans les ronflements. Souvent, on dort lorsqu'on dort sur le dos, pas tellement sur le côté. Et lorsque vous dormez sur le dos, avec la pesanteur, la langue va reculer un petit peu de 2-3 mm et va fermer le passage de l'air. Donc on imagine bien que des gens qui ont ce qu'on appelle des macroglossies, c'est-à-dire des grosses langues, seront plus sujets à faire ce type de problème.
Mais vous ne pouvez pas la couper la langue, donc qu'est-ce que vous
ça
faites ?
Ça dépend. Quelques cas, on peut réduire, alors pas la langue, pas la langue mobile, mais la base de la langue par des techniques laser. Alors par contre là, on est sur des interventions plus lourdes que...
Julien, vous auriez dit que c'était la langue, vous auriez rien fait, je crois.
C'est une sacrée preuve d'amour. Vous avez des patients comme ça qui ont accepté de se faire charcuter la langue. Enfin, je ne sais pas charcuter.
Oui. C'est vrai que c'est des interventions qui sont un petit peu plus lourdes. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de savoir où se situe exactement l'obstacle.
Alors qu'on peut commencer par dormir sur le ventre, peut-être ?
Alors, on peut. Alors, peut-être pas sur le ventre, mais sur le côté. Donc, il y a des techniques très simples qui consistent, alors un petit peu barbares, à mettre une balle de tennis, à accrocher une balle de tennis, soit son t-shirt.
Oui, il y a même des t-shirts exprès avec des petites poches à l'arrière, vous m'avez dit qu'il existe.
Dès que vous retournez sur le dos, ça vous fait mal et instinctivement, vous allez vous repositionner sur le côté.
Hein. Vous êtes en train de passer commande, je dis donc, non.
J'ai essayé, elle m'a mis un ballon de rugby, mais pour que je sorte du lit. Ouais, du coup,
c'est peut-être un petit peu gros. Et bon, bah voilà, c'est vrai que c'est un...
Ça peut être une petite astuce.
C'est une petite astuce, mais ça marche. Parce que sur le côté, on ronfle beaucoup moins.
Docteur Folcon, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Patrick Folcon. Je rappelle que vous êtes médecin ORL à l'Institut Arthur Verne à Paris. Alors, on va passer aux ronfleurs qui sont causés finalement par des apnées du sommeil. Mais avant ça, quand même un petit mot sur un ou deux petits traitements pour les ronfleurs hors apnée, on va dire, dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Il y a d'abord des choses qu'on peut faire du point de vue du laser ou de la radiofréquence. C'est quoi ces traitements-là ?
Alors, pour les ronfleurs simples, on peut proposer des traitements pour tenter d'améliorer la ventilation nasale. Donc, on peut diminuer ce qu'on appelle les cornets, qui ont une espèce d'excroissance muqueuse au niveau du nez, soit par un système de radiofréquence, une électrode de radiofréquence ou par le laser. Maintenant, on évite d'intervenir au niveau du voile parce que ça comporte déjà, c'est une intervention qui est très douloureuse. Ça ne marche pas à tous les coups, ça diminue le ronflement, mais ça ne les fait pas totalement disparaître. Donc, on est plus enclin maintenant à proposer des orthèses d'avancée mandibulaire. En fait, ça correspond à une sorte de protège-dents. reliés, qui relient
le
maxillaire.
Sur voilà, le haut ou le bas des dents?
Les deux,
non, les deux,
les deux,
d'accord.
On met le maxillaire supérieur et la mandibule, le maxillaire inférieur. C'est relié avec des petites biellettes qui vont permettre en fait d'avancer la mandibule de 2-3 mm. Et le fait que la mandibule avance, ça va faire avancer la base de langue, on en parlait tout à l'heure, de 2-3 mm.
Et
le
ça
passage,
suffit.
Ça suffit. Le passage de l'air est amélioré.
Ça coûte cher, ça, les mandibules, les orthèses.
Ce sont des orthèses que vous faites la prise d'empreinte vous-même.
Ah,
donc
oui,
c'est pas fait par un professionnel quand même. Donc c'est vendu en pharmacie. Non, c'est pas très onéreux. Et puis ça résiste 6 à 12 mois.
Bon,
alors,
je vais
il faut
commande.
Quand même que la personne ait un état dentaire correct,
ouais. Hein,
parce que ça peut bouger très légèrement les dents, avoir des gencives saines. Et puis, il ne faut pas trop avancer la mandibule parce qu'on peut avoir une répercussion douloureuse au niveau des articulations de la mâchoire.
Donc, ça peut pas
être adapté, ça ne correspond pas à tout le monde, malheureusement.
Ça vaut le coup d'essayer.
On peut essayer.
Elle est prête à prendre le risque, Mélanie.
Alors, prête à essayer.
Vous l'avez dit, lorsque les ronflements sont trop importants, ils peuvent être révélateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une diminution de la ventilation nocturne pendant le sommeil, voire des pauses de la respiration qui peuvent durer plusieurs secondes. Et cumulé sur une nuit, les patients peuvent ne plus ou diminuer leur respiration, ne pas respirer pendant parfois une heure et demie.
Wow. Alors,
pas d'un coup, hein, bien évidemment, ce n'est pas le grand bleu. Hein. Mais en cumulé, on peut avoir comme ça une nette diminution de la ventilation respiratoire. Et ça aboutit à une baisse de l'oxygène dans le sang et une compensation par le cœur qui accélère pour compenser cette baisse de l'oxygène. Et donc, c'est très mauvais parce qu'en fait,
votre cœur... Il y a des conséquences sur le long terme qui sont catastrophiques.
Parce que votre cœur, normalement, comme vous, doit se reposer la nuit. Et là, en fait, il accélère et il ne se repose pas. Donc, il ne se repose ni la journée ni la nuit. Donc, vous imaginez un peu les conséquences que ça peut avoir.
Mais justement, c'est quoi les conséquences? Parce que dit comme ça, ça ne fait pas peur. L'apnée du sommeil, on se dit, bon,
alors,
je m'arrête un peu de respirer, ça a l'air d'être pas si grave.
Je repars à chaque fois.
Voilà. Quelles sont les vraies conséquences?
Alors, les conséquences, ce sont des conséquences. Alors, ce n'est pas au bout d'une semaine ou deux mois, c'est sur des années. Les risques cardiovasculaires peuvent être multipliés par 7 ou 10. C'est-à-dire qu'on peut faire des problèmes d'angine de poitrine, c'est-à-dire le cœur est moins bien irrigué. On peut augmenter son risque de faire des infarctus, des AVC, on peut avoir des hypertensions artérielles réfractaires, c'est-à-dire qu'on a beau donner un ou deux antihypertenseurs, ça ne marche pas. Donc là, il faut suspecter un éventuel syndrome d'apnée du sommeil sous-jacent. Mmh. Ça peut entraîner des problèmes de concentration pendant la journée. C'est des gens qui sont très fatigués. Des problèmes professionnels. Vous voyez,
des conséquences très sérieuses,
on
l'a compris. Ouais.
Avec éventuellement un pontage à la clé, une insuffisance cardiaque. Donc ça peut être très sérieux.
Ça
donc c'est quelque chose.
Celle-là,
c'est une véritable maladie. Ouais. Et le problème, c'est qu'on en dépiste peu parce que justement, en parlant de ronflement tout à fait banal, en fait, les gens ne vont pas consulter. Et se disent, c'est pas grave, je ronfle, je gêne personne. Et on dépisterait actuellement que 15 à 20% des gens qui font des apnées.
Oui.
Donc comme on imagine que des études de prévalence ont montré qu'il y a à peu près 4% dans la population adulte française des gens qui font des apnées, on en dépiste malheureusement très peu.
Oui. Donc on a bien compris les enjeux. Voilà. Alors comment vous objectivez ça, vous, la gravité du syndrome d'apnée? Comment vous posez le diagnostic de façon certaine avec l'examen dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout
les symptômes.
Ouais.
Un ronfleur simple, bon, le matin, il ne sera peut-être pas très en forme, il ne sera pas très très fatigué. Quelqu'un qui a un véritable syndrome d'apnée du sommeil, même s'il dort 8, 10, 11 heures, il sera crevé le matin.
Ouais.
Donc fatigue matinale. Et surtout, il peut s'endormir instantanément pendant la journée. Donc c'est extrêmement dangereux aussi lors de la conduite de voiture, ça multiplie par 5 ou par 10 les accidents mortels. Donc les gens qui ont un syndrome d'apnée du sommeil qui n'est pas traité, normalement ne devraient pas conduire, c'est extrêmement dangereux. Donc la fatigue matinale, la somnolence pendant la journée, on peut avoir aussi des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête le matin au réveil, hein, ça c'est assez fréquent dans le syndrome d'apnée du sommeil, et la journée, une irritabilité, des problèmes de concentration, une baisse de la libido aussi, ça peut être aussi un signe d'apnée du sommeil.
Et du coup, qu'est-ce que vous leur proposez une fois qu'on a fait le diagnostic? Bien sûr, on propose d'abord le régime et tout le tralala, si ça ne marche pas, on doit mettre une machine, c'est ça le soir?
Alors, ça dépend du nombre d'hypopnées, enfin de diminution de la ventilation, voire d'arrêt respiratoire. Donc avec la polygraphie, ça permet d'obtenir un index qui permet de classer en
Donc
syndrome...
Je rappelle le petit appareil qu'on met sur le bras avec des capteurs sur le torse écouter ce qui se passe la nuit. Quoi.
Ça se fait sur une nuit au domicile. Hein, on le montre, on le pose, mais les gens le ramènent le lendemain matin, ça ne pose pas de problème. C'est très simple à faire. Et donc, on obtient un index qui permet de classer les apnées en légères, moyennes et sévères. Et quand les apnées sont sévères, là, on est obligé de proposer un traitement avec un masque la nuit qui va en fait insuffler de l'air sous pression pour contrecarrer, contrebalancer ces hypoventilations, ces pauses respiratoires, ces arrêts respiratoires.
Et c'est très efficace. Hein ?
C'est efficace. Alors, c'est efficace, mais ce n'est pas facile à supporter parce qu'il y a quand même une pression qui se fait dans le... D'où l'intérêt d'avoir des fosses nasales bien débouchées pour que l'air puisse bien passer. Parce qu'il faudra quand même corriger un obstacle nasal, même si le masque fonctionne bien.
Donc le problème avec ces masques, c'est surtout l'observance,
c'est ça
parce que les patients ont du mal à s'y adapter,
et
à
l'observance,
supporter.
Voilà, vous êtes quand même relié...
c'est un peu Dark Vador la nuit
Un pilote de chasse ou Dark Vador, mais vous êtes relié quand même à un appareil qui fait un petit peu de bruit. Bon, ça c'est un petit
qui
peu...
peut vous sauver la vie à long terme quand même. Hein,
voilà. Il faut quand même le supporter toute une nuit, c'est pas évident. Alors pour les syndromes d'apnée... moyen, on peut proposer la fameuse orthèse d'avancée mandibulaire, mais là qui est faite vraiment par un professionnel, qui est faite sur mesure et qui va vous suivre pour voir si...
Ça va suffire chez certains apnéiques, l'orthèse
On peut reproposer un enregistrement avec l'orthèse pour savoir si c'est efficace sur les apnées. Pas sur les apnées importantes, sur les apnées moyennes. Là, oui, ça peut marcher.
Et est-ce que tous ces traitements sont à prendre toute la vie, du coup, que ce soit l'orthèse ou même la machine?
Alors, si malheureusement on n'arrive pas à corriger un surpoids, une consommation excessive de tabac, etc., d'alcool, oui, malheureusement, ça peut être toute une vie, plusieurs années, plusieurs décennies.
Pour terminer, bon, sans affoler non plus les parents qui nous écoutent, il y a des enfants qui souffrent de ça, il faut le dépister chez eux aussi et les traiter, c'est important?
Oui, c'est important, et là c'est plus simple, c'est la plupart du temps lié justement, on en parlait tout à l'heure, à une augmentation de volume des amygdales et les végétations.
Donc là, on peut régler le problème.
Voilà,
ouais.
On peut faire des enregistrements chez l'enfant, hein, et ensuite proposer, là on est plus sur le versant opératoire, proposer une intervention qui enlève les amygdales et les végétations, et là la filière aérienne est... et débouché, désobstrué.
Merci beaucoup, docteur Faulcon, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci pour toutes ces précisions, ces conseils. Pour en finir avec les ronflements, mon conseil plus qu'utile, hein, puisque vous nous l'avez dit, 20 à 30% des adultes sont concernés de façon régulière. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre séquence Les Bobos du quotidien. Jimmy va nous donner ses meilleurs conseils en matière de lunettes de soleil. Il ne s'est pas transformé, rassurez-vous, en chroniqueur mode, mais il va tout nous expliquer sur la fragilité de nos yeux face à la lumière, face à toutes sortes de lumières d'ailleurs. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Question essentielle aujourd'hui pour votre santé. Oui, comment choisissez-vous vos lunettes de soleil? Savez-vous à quel point elles sont importantes pour protéger vos yeux? Quel est l'impact direct de la lumière sur nos mirettes? Et d'ailleurs, de toutes sortes de lumières, on en parlera aussi. Notre reporter Valentin Piovesan a été tester vos connaissances sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Moi, des lunettes de soleil, j'en ai pas du tout. J'en utilise pas. Peut-être que je devrais.
Moi, je sais que j'ai les yeux sensibles, donc du coup, je suis un peu obligée de porter des lunettes de soleil.
Pour plusieurs raisons. La première, c'est certainement pour des raisons de santé. Se protéger finalement des rayons qui peuvent être nocifs. Ça peut être aussi important pour des raisons esthétiques.
C'est important d'avoir un style.
Non, moi, c'était plutôt une histoire de confort, les lunettes de soleil.
Et je pense qu'il y a des différents degrés de vert en fonction de la puissance du soleil. Alors, si on est en montagne ou en ville.
Il faut respecter par rapport à la fragilité des yeux, il me semble. Le 1, c'est le plus faible ensoleillé, jusqu'à 5, il me semble, 5, où c'est vraiment très 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 ensoleillé.
Ça me permet en fait d'être plus confortable lorsqu'il y a un peu de soleil, quoi.
Alors Jimmy, on va parler donc des lunettes de soleil aujourd'hui. C'est vrai que bon, il pleut des cordes aujourd'hui. Hein. On n'a pas vraiment, on s'est dit, on a bien choisi le thème. Enfin voilà, on est vraiment en plein dedans. Mais justement, on a le temps d'aller acheter des lunettes pour quand il fera plus beau. Alors bon, je plaisante, mais c'est un sujet important car nos yeux sont vraiment fragiles face au soleil.
Oui, exactement. Alors quand vous avez la lumière du soleil, vous avez effectivement ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est les UV. Et les UV, vous en avez plusieurs types, le A, le B et le C. Les UV de type C, ils vont être absorbés par la couche d'ozone, donc ça pose pas trop de problèmes. Et puis vous avez les UVA et UVB, qui vont être en partie absorbés par les structures de l'œil, et des structures plutôt fragiles, comme la rétine. C'est ce qui va recouvrir le fond de l'œil et c'est le tissu le plus sensible aux ultraviolets. Et ça va être propice au développement de maladies comme la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et puis, vous avez d'autres structures comme le cristallin que vous trouvez derrière la cornée et derrière l'iris. Cristallin qui va être sensible à cette lumière et qui va être responsable notamment de cataractes. Donc vous comprenez bien que ces UV, on doit s'en protéger avec des lunettes de soleil, mais pas n'importe quel type de lunettes. Prenez pas les lunettes à 2 euros, il faut de vraies lunettes, car à ce moment-là, ça va permettre d'absorber les UV et d'éviter d'exposer vos yeux à un grand danger.
Est-ce qu'on a vraiment tous les yeux aussi fragiles les uns que les autres face au soleil ?
Alors tout dépend du contexte évidemment, ça dépend aussi de votre phototype. Si vous êtes blond, à la peau blanche, avec les yeux bleus, vous êtes plus à risque que si jamais vous avez les yeux marrons ou noirs. Et puis ça va dépendre aussi de l'âge. On sait que le cristallin dont je vous ai parlé tout à l'heure des enfants est beaucoup plus fragile.
Les bébés particulièrement.
Exactement, donc il faut absolument protéger les yeux des bébés, mais aussi les yeux des vieillards qui sont aussi fragiles.
Et qui risquent de ne pas se plaindre justement.
Exactement, et puis ça va dépendre aussi de ce que vous faites. Si vous êtes à la neige, au ski ou à la montagne, il peut y avoir des facteurs aggravants aux UV.
Alors, est-ce que vous avez 2-3 conseils, docteur Jimmy Mohamed, chroniqueur beauté, pour nous aider à choisir bien, pour notre santé, vraiment, des lunettes de soleil?
Oui, alors, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est lorsque vous achetez des lunettes, vérifiez bien qu'il y a un marquage CE. C'est la garantie qu'il y a une protection qui va aller de 0 à 4. Et attention, on a tendance à confondre deux choses. La teinte des lunettes, en pensant que plus elles sont teintées, plus ça va...
Oui, je me dis, si c'est noir mat, c'est
non,
bon, ça me protège.
La teinte permet d'absorber, ne permet pas de limiter l'absorption des UV, mais c'est juste pour la luminosité. Donc ça veut dire que vous pouvez penser que tout se passe bien, mais vos yeux peuvent absorber tous les ultraviolets si la protection n'est pas suffisante. Et donc, la protection qu'on proposait, elle va donc de 0 à 4. 1, c'est finalement pour un petit ensoleillement qui va être atténué. 2, c'est quand c'est moyen. 3, c'est quand vous allez à la mer, à la montagne, peut-être cet été, ou au sport d'hiver, l'hiver prochain. Et puis la catégorie 4, c'est celle qui permet de filtrer le plus les UV. Et là, c'est pour les sportifs un peu extrêmes.
Les chasseurs de l'extrême, hein, l'alpinisme, les glaciers, c'est pas pour nous. Hein,
c'est pas pour nous.
D'accord,
exactement.
On va rester sur la catégorie 3, au moins, Jimmy. Puisqu'on parle de l'impact de la lumière, juste un petit mot quand même de la lumière bleue. Elle fait vraiment du mal à nos yeux, celle des écrans.
Elle fait du mal à notre sommeil, essentiellement. Elle va perturber les micro-architectures du sommeil, les petits trains du sommeil. Et même si vous avez l'impression de bien dormir, si on enregistrait votre sommeil alors que vous êtes exposé à ces lumières bleues, mais on se rendait compte que vous dormez mal. Et c'est aussi
donc
valable
chez les
enfants.
Elle nous rend pas mieux, forcément, mais elle nous rend insomniaque.
Insomniaque avec une mauvaise sommeil et donc forcément une mauvaise humeur le matin.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions et ces conseils.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1, vous le savez, entre 15h et 16h tous les jours. On va passer à présent à la toute dernière séquence de l'émission, avec en studio avec nous, bien sûr, comme tous les jours, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Mélodie. Elle a 39 ans et elle nous dit « J'ai eu un cancer du sein il y a 6 mois avec ablation des deux seins et je n'ose plus faire l'amour avec mon mari. J'ai peur de son regard et surtout peur qu'il ne m'aime plus comme avant à cause de mon corps. » Avez-vous des conseils ? Alors Catherine, c'est vrai qu'une mastectomie totale, hein, comme elle le décrit, c'est psychologiquement, on l'imagine évidemment très difficile pour une femme, surtout qu'on associe malheureusement encore beaucoup sein et féminité. Hein.
Oui, mais ce ne serait pas ses seins de toute façon être abîmés dans son corps. La première personne qui doit réapprendre à s'aimer, c'est bien celle-là. Et la peur que nous avons du regard de l'autre, c'est déjà la projection de notre propre difficulté à nous accorder le droit de continuer à nous aimer et faire le deuil de ce que nous étions pour ce que nous sommes devenus et faire grandir et accueillir paisiblement et s'émerveiller de tous les possibles de ce corps quand bien même il a été traumatisé. Donc on peut comprendre que dès lors qu'il s'agit en plus des seins, donc d'un organe assimilé, même s'il est plutôt maternel, mais assimilé à la féminité et potentiellement à l'expression du désir masculin, toute la difficulté c'est d'oser se présenter tranquille fièrement face à celui qui vous aime avec ce corps abîmé, parce qu'on se dit qu'on n'a plus matière à l'exciter, encore une fois, de par cette idée reçue qu'une femme doit être excitante, alors que c'est la relation qui est, et l'excitation, elle est interne à chaque individu, se pose bien sûr sur le corps de l'autre, mais c'est au-delà du corps et des formes de l'autre, bien évidemment.
Et peut-être que la première étape, c'est d'abord de réapprendre à s'aimer avec son nouveau corps, ne pas se dire qu'on va retrouver exactement la même chose, mais déjà s'aimer tout simplement.
Bien sûr, et c'est très difficile parce que même quand la chirurgie esthétique propose une réparation et d'ailleurs montre de très belles choses faites, la réalité c'est que ce n'est jamais un retour en arrière. Certains veulent encourager en disant « Oh mais tu verras, ça sera mieux qu'avant, c'était l'occasion de te faire des magnifiques seins, etc. » Non, l'histoire n'est pas là, même si au final il y aura de très beaux seins, ce ne sont pas ses seins à elle. Et donc, c'est un chemin difficile, que le chemin d'appropriation de ce corps, des sensations aussi de ce corps, parce que le système nerveux a été inévitablement touché, sectionné, il faudra qu'il se reconstruise, donc retrouver ces sensations tout à fait naturelles. Et évidemment que c'est un temps long, et la sexualité, la relation,
elle
n'attend pas.
C'est un temps long, et elle dit que c'est en plus, cette ablation, elle a eu lieu il y a à peine 6 mois, c'est très peu de temps.
C'est très peu de temps, puisque tout le système, évidemment, nerveux, met beaucoup plus de temps que cela, pour perdre l'aspect cartonné, le sentiment que c'est du carton, mais bien de la peau, pour avoir des sensations qui renvoient au frémissement d'hier. Tout ça met du temps, donc évidemment, la difficulté, c'est de s'offrir au regard de l'autre, c'est s'offrir aux mains de l'autre, et je crois que plus que jamais, et ça c'est pas vrai que pour le cas de la sexualité ou que le gardeur des seins, plus que jamais les lieux abîmés doivent être des lieux touchés et accepter d'abord de se toucher, de se laisser toucher et accepter que les sensations ne sont plus les mêmes, mais pourtant de chercher à, non pas retrouver le passé, mais de chercher à accueillir la main qui touche. C'est important et pour la vascularisation et pour le système nerveux, mais pour la psychologie.
Mais du coup, avant de se toucher ou de se laisser toucher, est-ce qu'il faut en parler avec son conjoint? Est-ce que c'est un sujet de discussion ou est-ce qu'on doit essayer de dire bon bah on ne parlait pas de sexualité avant parce que ça se passait bien et puis là on fait comme si de rien n'était? C'est peut-être difficile.
Oui, c'est souvent difficile parce que là, il y a un nouveau problème, c'est qu'en parler avec son compagnon, c'est parler de sa blessure. Or ça, ce n'est pas sexy puisque c'est potentiellement avoir l'idée d'être victime.
Mais la blessure
situation.
Et la maladie, il a dû la vivre avec elle à la fois, donc il doit être conscient de cette
bien
blessure.
Ouais. Et puis l'homme a aussi une difficulté parce qu'il a peur de faire du mal. Et puis avoir aussi peur de ce qu'il touche, de ce qu'il rencontre. Tout le monde ne serait pas médecin, chirurgien, tout le monde ne serait pas masseur, tout le monde ne serait pas kiné. C'est une forme particulière de savoir toucher le corps de l'autre tranquillement, y compris dans ses blessures. Certains ont besoin de ne toucher que des choses, j'allais dire, caresser du velours. Et là, ce n'est pas du velours. Il va falloir aller à la rencontre paisiblement. Donc, c'est deux personnes qui doivent s'approprier une situation qui, même si c'est sur le corps de l'un, c'est aussi un impact psychologique pour l'autre. Donc, les deux peuvent avoir peur. Et je pense que c'est important d'en parler en disant « Dis-moi si je te fais mal, dis-moi si tu sens. »
En parler, se donner du temps, éteindre les lumières s'il le faut.
Bien
enfin, y aller vraiment mollo-mollo.
Bien
c'est
sûr,
ça,
surtout ne pas s'exposer. On n'est pas dans un cabinet médical. On n'est pas là pour montrer la blessure du vétéran. On est là pour se réapproprier comme des petits animaux blessés, y compris celui qui ne l'est pas.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient bien sûr demain à la même heure sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Place maintenant à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Oh, je suis sûr que vous avez flashé sur le prince Harry, vous Mélanie. Aujourd'hui, nous parlons des princes rebelles de l'histoire, Stéphane.
Oui, et qui était en décalage. Gaston d'Orléans qui a comploté contre son frère Louis XIII.
Pour le coquinou.
Prince qui était vraiment en décalage, c'était vraiment un rebelle dans le monde de la musique. Et Prince Harry, who's that guy?
that guy, Stéphane. Oui. That guy that you don't like very much. C'est le prince Harry, évidemment, oui. Qui fait parler de lui un peu.
Oui.
Celui qui est parti aux États-Unis,
vivre
vous savez.
Vivre une vie de,
voilà.
De...
Qui est-il vraiment? Mérite-t-il toute cette haine? Restez
non,
avec
c'est
nous.
Pas de la haine. C'est de la moquerie.
Du mépris.
Bon, mais moi, j'adore les histoires de princes et de princesses. Donc, je crois que je vais rester bien avec vous. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1. Hein.